aujourd'hui, les programmes d'intelligence artificielle que nous développons ont à peu près autant de conscience que votre grille-pain.
Il y a, en France notamment, une tendance au financement des projets sur de courtes durées. On veut des résultats tout de suite. Ça veut dire la mort de la recherche fondamentale.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est des industries grand public comme Facebook, Google, Apple, qui eux prennent de plus en plus à leur charge ce qui relevait des États.
On va conquérir l'Amérique, c'est l'objectif. Sauf qu'on va le faire en tant que Français.
Née il y a 60 ans, l'intelligence artificielle, l'IA, comme on la surnomme, a vécu des hauts et des bas, mais elle bénéficie depuis peu de progrès déterminants dans la puissance des processeurs et serveurs, dans l'expertise de masse croissante de données, de nouveaux algorithmes et d'investissements dans la recherche de plus en plus conséquents. L'intelligence artificielle est à la mode et déjà partout dans nos vies, que ce soit pour identifier les voix, les visages, améliorer les résultats des moteurs de recherche ou traquer les photos indésirables sur les réseaux sociaux, etc., etc., et des événements, comme la victoire écrasante il y a 2 mois d'une machine sur un champion de Go, propulse sur la scène médiatique ce que des romans et des films d'anticipation ont depuis longtemps mis en avant. L'intelligence artificielle, considérée par certains comme une nouvelle révolution industrielle, touche de très nombreux secteurs, du militaire à la finance, en passant par la médecine, la communication ou les services, avec les assistants personnels ou quand votre téléphone portable se transforme en votre majordome numérique. Les investisseurs américains en sont très friands. Google, Amazon, Facebook, IBM, Microsoft ont fait énormément de rachats de start-up et investi dans la recherche, y compris en France. Intelligence artificielle made in France, c'est un reportage d'Éric Chavroux. Et pour en parler avec nous ce soir, Grégory Bonnet. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au sein du groupe de recherche en informatique, images automatiques et instrumentation, le GREC, donc à l'Université de Caen. Merci d'être là. À vos côtés, Olivier Ezrati, consultant en innovation, auteur d'un guide annuel des startups et auteur de nombreux articles que l'on peut retrouver sur votre blog Opinion Libre au pluriel.
Bonsoir.
Et nous sommes aussi avec vous, Éric Chavroux. Alors, même si vous suivez, on va dire, ces progrès technologiques depuis longtemps, vous avez été interloqué, comme nous tous d'ailleurs autour de cette table, par la victoire de la machine sur l'homme. C'était en mars dernier, Eric.
Cette victoire 4-1 de l'intelligence artificielle sur le champion Lee Sedol, marquée par une dernière manche très disputée mais remportée par la machine, par abandon. La fédération sud-coréenne de Go a d'ailleurs accordé le rang de divin à AlphaGo. Mais j'ai aussi lu quand même les mises en garde d'experts en intelligence artificielle sur le coût marketing de Google, avec au final des centaines de millions de spectateurs dans le monde et des milliers d'articles aussi. En fait, déjà en septembre 2013, à l'occasion d'un magazine de la rédaction sur les robots, j'avais pris conscience des avancées en la matière et des questions posées, loin d'être uniquement technologiques, sur le plan civil et militaire. Et puis depuis, tout va très vite dans nos téléphones, en particulier, vous l'avez dit. Et Facebook notamment, on va l'entendre, investi par l'intermédiaire d'un Français, Yann Lequin, l'un des inventeurs de l'apprentissage profond, le deep learning, une brique de l'IA qui a le vent en poupe. Ce même Yann Lequin qui a très souvent fait sale comble au Collège de France ces dernières semaines, où il vient d'introduire l'intelligence artificielle.
Le Collège de France à Paris, d'où démarre votre reportage.
Merci beaucoup pour l'introduction. Tout d'abord, je voudrais remercier mes nouveaux collègues pour m'avoir invité à enseigner dans ces murs illustres. Alors, je vais parler d'apprentissage profond, qui a ces dernières années créé une petite révolution, plutôt une grosse révolution même, en intelligence artificielle et dans les applications de l'intelligence artificielle. Et je vais commencer un petit peu par...
Moi, je suis enseignante en lettres modernes, donc j'ai aucune notion scientifique de la question. Donc l'intelligence artificielle, ça, c'est plus relié à un fantasme, à des films de science-fiction, à un avenir possible. Et bah, là, il y avait des applications théoriques, donc ça aide à faire la part des choses, quoi. Ça rend plus intelligent. Et à comprendre aussi le fonctionnement d'une machine, et du coup, à dégager le fantasme et la part de réalité probable, possible, qui peut arriver, quoi. Yann Lequin a répondu à la fin de la conférence en disant qu'il n'y aurait pas de reproduction de nos émotions. Donc un ordinateur n'aurait pas d'émotions, on ne construirait pas ça. Mais on se demande jusqu'où ça peut aller, du coup, si un ordinateur est capable de parler, s'il est capable de traduire plusieurs langues, et s'il est capable aussi d'apprendre des choses sans qu'on lui mette plein d'images de base dedans. Jusqu'où ça peut aller, ça reste une question ouverte.
Our goal is to build intelligent machines to help people in their daily lives.
Yann Lequin profite aussi de la communication de Facebook. Il a en effet été personnellement recruté par son dirigeant, Mark Zuckerberg, passionné par le sujet, pour piloter les recherches en intelligence artificielle du groupe aux milliards d'utilisateurs actifs quotidiens. Et le géant américain vient de déménager dans Paris pour fortement développer son unique laboratoire européen. La France a officiellement été choisie pour ses talents et sa formation académique, sa tradition mathématique et d'ingénieur, et un écosystème de start-up très innovante. Mais certains disent aussi que Google, avec sa société DeepMind, et Microsoft étaient déjà installés au Royaume-Uni, un des berceaux de l'intelligence artificielle. Lancé il y a un an, ce laboratoire parisien est dirigé par Florent Perronin, spécialiste de la vision par ordinateur, ravi de montrer dès l'entrée des visiteurs deux importantes démonstrations grand public pour défier un ordinateur.
Donc par exemple, on prend une image et on peut poser une question. Qu'est-ce que celle-ci contient? Qu'est-ce qu'il y a dans le vase? Ce sont des roses? Quelles couleurs sont ces roses? Etc. Et les applications pour Facebook sont nombreuses, et notamment une de celles qui nous excite le plus, c'est bien sûr le fait de pouvoir rendre le contenu visuel accessible aux personnes qui, justement, ne peuvent pas voir ces images, aux personnes aveugles, par exemple.
Et alors, si on continue donc la visite, du coup, après, vous travaillez où ?
Donc, nous travaillons dans un des coins du bâtiment. Nous y allons dans un coin relativement calme, puisque, comme vous pouvez vous en douter, les chercheurs ont besoin de beaucoup de calme pour travailler.
C'est un grand plateau, en fait, c'est tout un étage, c'est ça, là, on est la vue sur les toits de Paris.
Oui, c'est un grand plateau, ça fait partie de la culture de Facebook. Tous les locaux sont organisés de cette manière, le but étant de permettre à absolument toutes les équipes de collaborer de manière la plus simple possible. Voilà, donc on arrive dans le coin du laboratoire de recherche d'intelligence artificielle. Et comme vous voyez, il y a encore énormément d'espace pour pouvoir croître dans le futur. J'ai pas fait le calcul, mais je crois que rien qu'ici, on doit avoir encore une cinquantaine, soixantaine de postes libres éventuellement.
Quel est le budget ?
Alors, je ne peux pas communiquer sur le budget, malheureusement. Disons juste que c'est un budget en accord avec nos ambitions, qui est de devenir le premier laboratoire d'intelligence artificielle dans le monde, et donc un budget qui permet d'attirer à la fois les meilleurs talents, mais aussi de sponsoriser des accords avec la recherche publique, par exemple.
Parce qu'aujourd'hui, si le classement, on va dire, mondial des laboratoires de recherche, qui domine ?
Je ne commenterai pas, parce que ça serait discuter de nos concurrents et que je ne suis pas la meilleure personne pour le faire. Mais en tout cas, notre ambition est vraiment d'être le laboratoire numéro un, grâce à nos équipes, à la fois à Menlo Park, à New York et à Paris.
Dans quel délai ?
Très prochainement.
L'ambition est ouvertement déclarée et les conditions de travail adaptées face à l'ancienne Bourse de Paris, au dernier étage d'une ancienne banque française. De quoi recruter une équipe internationale de très haut niveau, français, sénégalais, hollandais ou espagnol, et attirer une doctorante comme Pauline Luc, qui va passer ici 2 ans et 1 an à l'INRIA de Grenoble, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.
Bah, j'ai été vraiment très très heureuse d'avoir cette opportunité. D'abord parce que je savais que j'allais pouvoir travailler avec des personnes qui sont très reconnues dans ce domaine et dont j'allais pouvoir apprendre énormément. La recherche que l'on fait ici est très ouverte et ça, pour un chercheur ou pour un doctorant, c'est très très important parce que ça veut dire qu'on peut avoir un impact important au sein de la communauté de recherche. Et puis enfin, le produit Facebook, c'est un produit que j'aime et que j'utilise tous les jours. Donc c'est une boîte qui a une très belle image auprès des jeunes, donc j'étais très fière de pouvoir participer, entrer dans cette boîte. Voilà. Vu tout ce que je vais pouvoir apprendre ici, ce seront des choses qui seront utiles par la suite. Par exemple, si je veux monter ma boîte, ou ça me plairait aussi énormément de continuer à travailler chez Facebook pour les conditions de travail, pour les moyens qu'on met à notre disposition et pour le fait qu'effectivement, c'est un petit peu le meilleur des mondes entre un laboratoire industriel où on a un impact sur le produit et un laboratoire académique où on peut quand même publier notre recherche. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment exceptionnel et qui est effectivement peut-être un peu plus difficile à trouver dans des boîtes françaises, mais peut-être que ça viendra par la suite et j'espère que ça viendra par la suite.
Is there a baby? Yes.
What is the man doing?
Typing.
Une recherche en open source, disponible en ligne, c'est une volonté revendiquée de ces laboratoires pour partager leur savoir et gagner la confiance, mais aussi pour instaurer leur méthode. Camille Coupry, qui a fait son post-doctorat à l'Université de New York pour Yann Lequin, travaille ainsi sur les vidéos, éléments clés du réseau social et des médias aujourd'hui.
On essaye de construire des modèles mathématiques pour prédire les images suivantes dans les vidéos. Donc en fait, à partir d'une courte séquence d'images, on essaie de prédire ce qui va se passer dans le futur. Alors pour les gens comme nous, c'est facile, mais pour les ordinateurs, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, nous, notre but, c'est de rendre ça possible pour les machines. Donc là, je montre un exemple où on voit une séquence de quatre images d'une petite fille qui souffle une bougie. On a les deux images suivantes qui ont été prédites complètement par un ordinateur, donc de manière non supervisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas montré à l'ordinateur ce qu'était une bougie. Il ne sait pas du tout quel est le sens sémantique de ce qu'il y a dans l'image. Mais en lui montrant que des vidéos, en fait, il a réussi à créer une représentation de ce qui constitue l'image, des pixels, de comment ils bougent ensemble pour arriver à prédire un peu le futur en quelque sorte. Même si on est loin d'avoir des performances très, très bonnes. Là, donc, c'est un article qu'on a publié très récemment. Donc, c'était nos premiers travaux dans ce domaine-là. Et ce qu'on peut prédire avec précision, c'est pas plus que 4-5 images. Après, ça devient vraiment illisible.
Travailler sur la vidéo, c'est aussi important parce que c'est un des cœurs de Facebook, la vidéo.
Oui, c'est vrai. Pouvoir indexer le contenu des vidéos, c'est effectivement un problème de taille qu'on a et qui est croissant tous les jours. Donc, ne serait-ce que de limiter le travail des annotateurs de vidéos, ça a un intérêt pour Facebook. Oui.
And now Facebook's new technology can tell them what's in a photo. Facebook, search. What's on your mind?
Pas question pour autant de s'immiscer dans la vie privée des utilisateurs, assure Florent Perronin, aux côtés de la responsable de la communication de Facebook France. En chaussettes, ce matin-là, parce qu'il a mal aux pieds, il rassure également sur les avancées des recherches.
La plupart du temps, ça sert à créer des nouveaux services qu'on ne pourrait pas créer sans l'intelligence artificielle. C'est par exemple le filtrage des contenus visuels, par exemple des contenus pornographiques sur Internet. Aujourd'hui, il serait impossible d'avoir des annotateurs qui regarderaient toutes les images qui sont téléchargées quotidiennement sur Facebook. Si on prend tout l'écosystème Facebook, donc Facebook, Instagram, par exemple WhatsApp, on parle d'environ 2 milliards d'images qui sont téléchargées chaque jour. J'ai fait le calcul rapidement une fois. Ça ne passait que quelques secondes par image pour prendre une décision. Il faudrait 60 000 personnes qui travailleraient quasiment à plein temps juste pour faire cette tâche. Donc le but d'intelligence artificielle, c'est bien sûr de créer des nouveaux services innovants qui n'existeraient pas si on n'avait pas des machines intelligentes. Aujourd'hui, la moitié des contenus visuels interdits, entre guillemets, qui ne devraient pas être postés, la moitié de ceux qui sont filtrés par des ordinateurs, justement.
L'intelligence artificielle, elle a de quoi inquiéter ou pas ou...
Je pense qu'il faut véritablement distinguer ce que font les chercheurs en intelligence artificielle, que ce soit dans le public ou dans le privé, de ce qu'on voit au cinéma, qui n'a absolument rien à voir. Et notamment, au cinéma, on a toujours cette vue de robots qui pourraient se rebeller contre les humains parce qu'ils deviendraient trop intelligents. Au risque de vous décevoir et de décevoir vos auditeurs, aujourd'hui, les programmes d'intelligence artificielle que nous développons ont à peu près autant de conscience que votre grippe. On ne parle pas du tout de programme qui aurait une conscience d'eux ou quoi que ce soit, qui paraît complètement de la science-fiction. Et aujourd'hui, au mieux de mes connaissances, il n'y a absolument personne dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui a la moindre idée de comment faire des machines, par exemple, qui auraient leur propre conscience.
Comment est-ce que vous considérez la vie privée dans vos recherches? Est-ce que c'est quelque chose que vous tenez en compte?
Déjà, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie privée, c'est une des préoccupations principales de nos utilisateurs. Et comme nos utilisateurs n'ont pas de contrat avec Facebook, ils peuvent partir à tout moment. Donc notre but est vraiment de nous assurer qu'il y a toujours une confiance entre Facebook et les utilisateurs. Donc déjà, nous, concrètement, nous ne faisons pas de recherche sur les données de nos utilisateurs. Nous sommes un laboratoire dont le but est notamment de publier toutes nos recherches. Donc la très très grande majorité de nos recherches est effectuée sur des données publiques afin de pouvoir nous comparer avec l'état de l'art, avec nos compétiteurs académiques et industriels dans le domaine.
Vous ne puisez pas dans des données du voisin d'en face ou de qui aurait un compte Facebook et sur lequel vous entraîneriez ?
Non, aujourd'hui, nous n'utilisons pas de données utilisateurs Facebook pour nos recherches à Paris.
Monsieur Théodore Twombly, bienvenue dans le monde du premier système d'exploitation à intelligence artificielle. Nous aimerions vous poser quelques questions.
Ok.
Êtes-vous un être social ou antisocial ?
Je crois que je n'ai pas
face à tant de moyens engagés dans l'intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganassia s'inquiète de risques politiques. Professeur au laboratoire d'informatique de l'université Pierre et Marie Curie, il étudie notamment avec des philosophes l'éthique dans ses développements.
Les enjeux financiers qui sont liés à un certain nombre d'industries, comme celle des jeux vidéo par exemple, comme celle des industries grand public, sont beaucoup plus considérables que ceux des militaires. Et donc, là où l'industrie militaire joue un rôle central dans le développement des recherches, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt des industries grand public. Et donc, ce sont des grands acteurs. Alors, ça peut être des acteurs comme Facebook, Google, Apple, même d'autres types d'acteurs qui, eux, vont avoir un rôle central. Et bien sûr, eux-mêmes ont tellement de moyens qui sont capables de développer en interne les choses sans avoir à faire appel au laboratoire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les meilleurs d'entre les jeunes étudiants qui sortent et ils leur offrent des conditions fabuleuses qui font qu'il est difficile de le retenir. Donc je pense que le problème aujourd'hui, c'est plus un problème lié à la souveraineté et au fait que aujourd'hui ces grands acteurs prennent de plus en plus dans le monde à leur charge ce qui relevait des attributs traditionnel des États, ce qu'on appelait les fonctions régaliennes. Je vais donner un exemple, la sécurité. Ça relevait normalement de la fonction de l'État. Et aujourd'hui, il y a des techniques pour assurer la sécurité, par exemple la reconnaissance faciale. C'est extrêmement intéressant parce que pour faire de la reconnaissance faciale, il faut prendre des images, ensuite repérer par un traitement automatique, ce qu'on appelle des amers, des points d'intérêt, par exemple les commissures des lèvres, les narines, etc. Et ensuite, on fait de l'apprentissage automatique sur un grand nombre de photos pour arriver à reconnaître les individus. Alors, sûr, pour que l'État puisse prendre ça à sa charge, il faut deux choses. Il faut d'abord que légalement, il puisse le faire, ce qui pose problème, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, des règlements comme la CNIL, qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs, protection de l'intimité individuelle, protection des données personnelles, bien sûr, ne permettent pas de constituer des fichiers de ce type-là, même lorsqu'il s'agit de personnes qui sont repérées par la police, qui sont fichées. On n'a pas le droit de les réutiliser. Puis une deuxième question, c'est qu'il faut avoir toutes les photos. Quels sont les acteurs qui peuvent le faire aujourd'hui ? Ben, ce sont les réseaux sociaux, puisqu'ils ont toutes les photos, on leur donne les photos. Et donc, ce qui va se produire, c'est que d'ici quelques années, vous allez avoir des réseaux sociaux qui... Alors, ils ont fait des progrès fabuleux aujourd'hui. Google annonce qu'ils sont capables de reconnaître à 99,63% les visages. Bien sûr, il faut savoir que c'est dans des situations particulières, avec un éclairage particulier, etc. Mais on a quand même des acteurs privés qui vont avoir une faculté d'assurer la sécurité qui sera plus grande que celle des États, ce qui me semble poser des problèmes tout à fait majeurs pour le futur.
Dans son bureau parisien flambant neuf de l'INRIA, le spécialiste reconnu de la vision artificielle, Jean Ponce, pondère. Directeur du département d'informatique de l'École normale supérieure, il évoque, lui, des relations qui évoluent.
Non, alors, je pense que de manière générale, et la même chose est en train d'arriver aux États-Unis, il y a une relation gagnant-gagnant à construire avec l'industrie, et cette relation est en train de changer. Ben pour l'instant, ça se passe très bien. Alors, au niveau de Microsoft, par exemple, il y a un laboratoire commun Microsoft Research INRIA qui existe depuis une dizaine d'années. Mon équipe fait partie de ce laboratoire, donc on partage la propriété intellectuelle avec eux dans les projets communs. On n'a pas vraiment de délivrables à leur donner, ils ne demandent pas l'exclusivité, quoi que ce soit, etc. Pour nous, ça a permis, entre autres, de développer des activités dans l'application de méthodes de vision à l'archéologie, ce qui peut ne pas paraître un truc évident pour Microsoft. Justement, avec le développement d'une start-up qui s'appelle Iconem, qui a été pas mal dans la presse récemment parce qu'ils ont fait ils travaillent sur la sauvegarde du patrimoine culturel syrien à partir d'images et de modèles tridimensionnels. Et donc ça, c'était un élément très positif. Par exemple, avec Google et Facebook, aujourd'hui, pour nous, c'est essentiellement du mécénat, où ils ont fait des dons sans rien demander en retour, ce qui est un bon mode de fonctionnement.
Quelle fourchette ?
Alors là, c'est des petites sommes, c'est de l'ordre de 70 000 euros, 100 000 euros. Mais aussi, l'idée est de faire des collaborations, et l'idée, c'est de faire de la science. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Avec ces groupes-là, on a très bonnes relations. Il faut faire attention, mais il faut aussi se rendre compte qu'encore une fois, on n'en est pas à un point où la recherche, il n'y a plus besoin de la recherche académique. Et par exemple, si ces groupes vidaient les labos, ils n'auraient plus personne pour former leurs prochains ingénieurs. Donc, même de leur point de vue, ils ont tout intérêt à avoir des relations constructives avec les laboratoires. Et je crois que c'est vrai en France, comme aux États-Unis, il peut y avoir de temps en temps, des petits accros, des choses comme ça, mais je pense que tout le monde a intérêt à avoir des bonnes relations. Et donc non, pour l'instant, je m'en fais pas trop.
Monsieur Bérou, bonjour.
Bonjour, oui.
Ça va ?
Ravi de vous accueillir à Brest, sur le joli campus de Télécom Bretagne.
Il n'y a pas que l'Île-de-France, il n'y a pas que la Silicon Valley pour l'intelligence artificielle, il y a aussi la pointe bretonne.
Ah oui, tout à fait. Bon, évidemment, nous ne sommes pas les seuls en France. Hein. Mais bon, vous avez entendu parler de la Bretagne, terre des télécoms. Hein, on y a fait de belles choses en Bretagne. Je ne vais pas les citer toutes, les fibres optiques, le Minitel à l'époque, les précurseurs d'Internet. Et puis tout ce qu'on a pu inventer en termes de codage. Par exemple, le code correcteur d'erreur dans les téléphones mobiles aujourd'hui, c'est une norme mondiale, il y en a des milliards sur la planète, et d'origine brestoise. Bon, j'ai eu la chance d'en être l'inventeur.
Aujourd'hui, Claude Bérou prépare le premier grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle à l'Académie des sciences, et il orchestre un programme multidisciplinaire. Mais il souligne le manque de moyens accordés en France à une recherche fondamentale toujours plus sous pression.
Un enjeu majeur, c'est le nombre de postes qui nous sont alloués chaque année. C'est misère, quoi. C'est misère. Notre équipe, c'est 12 à 15 personnes selon les saisons. Nous sommes deux permanents, deux chercheurs avec CDI. Le reste n'est que CDD. Voilà, je vais profiter de votre antenne pour exprimer un point de vue que je n'ai jamais entendu et qui me gêne beaucoup. Il y a, en France notamment, une tendance au financement des projets sur de courtes durées. On veut des résultats tout de suite. Alors voilà pourquoi on a créé les IDEX, les IRT, toutes sortes de montages d'investissement de l'avenir. Et on nous dit qu'il nous faut des résultats sur 4-5 ans. Quand je dis 4-5 ans, c'est parfois 2 ou 3 ans. On recrute des postdoctorants en général. Et on ne peut le faire que, parce que la loi Sauvadet est passée par là, que sur une durée assez courte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire la mort de la recherche fondamentale. Et heureusement que l'Europe, à travers les bourses qu'elle alloue chez les juniors comme chez les seniors, nous permet de continuer à travailler à ce niveau de recherche fondamentale. S'il s'agissait uniquement de trouver des financements au niveau national ou régional, on ne pourrait plus traiter que des problèmes à court terme, à cause de la loi Sauvadet et à cause de ces investissements d'avenir. Et puis, je vois mes jeunes collègues qui passent leur temps à multiplier les dossiers, à faire des copier-coller, à adapter à des appels d'offres plus ou moins semblables à leurs idées. Non, ça va vraiment pas dans le bon sens, quoi. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une génération où d'abord, il y a eu France Télécom, hein, qui tenait les rênes de tous les financements possibles en télécommunications et en sciences de l'information. C'était plutôt simple d'avoir un contrat. C'était vraiment le bon temps. Aujourd'hui, face à tous ces robinets, là, on s'y perd, on perd beaucoup de temps. Et puis, on ne peut plus bâtir de projets à long terme. Un projet comme l'informatique neuro-inspirée, c'est un projet à long terme. et je suis obligé parfois, enfin ça va m'arriver là, c'est pour ça que je suis un peu remonté aujourd'hui, de devoir dire à un collègue, bah non, c'est fini, tu vas pas pouvoir continuer parce que M. Sauvadet t'interdit de continuer de travailler à Télécom Bretagne, tu as fait tes 4 ans, tu dois partir.
Et il y a un moment où tu vas avoir la trajectoire qui va être pile poil au niveau de la médiatrice, et c'est là que tu vas passer de l'état 1 à l'état 2.
D'accord. C'est la distance bien plus proche, en fait. C'est juste la distance minimale devient...
Dans la pièce voisine, Vincent Gripon, le bras droit de Claude Béroux, échange justement au tableau avec deux post-doctorants en électronique et neurosciences et en traitement du signal de l'électroencéphalogramme.
L'idée, c'est d'essayer de détecter s'il y a des activités qui sont reproductibles d'un individu à l'autre, de les catégoriser. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que même quand on ne fait rien, il y a certains réseaux qui s'activent dans le cerveau et qui sont très similaires d'un individu à l'autre. Après, neuroaspirer, pour nous, c'est très important. Ça veut dire qu'on n'est pas neuromimétique. Il y a beaucoup de nos collègues qui travaillent sur des machines qui imitent le cerveau au mieux, donc qui essayent de vraiment copier son fonctionnement en allant dans les détails les plus élémentaires. Nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. On est dans une démarche où on essaie de simplifier au maximum le modèle et de voir dans une version simplifiée ce qu'on est capable de faire.
Et par rapport à tout ce que vous étudiez, travaillez ici, vous diriez que vous en êtes où ?
C'est une très dure question. On n'a jamais été aussi proche du but. Maintenant, le but change tous les jours, donc c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question. On reste les pieds sur terre. Je veux dire, on a tous envie de participer à quelque chose d'énorme et de pouvoir participer à la compréhension du cerveau, participer à l'émergence de l'intelligence artificielle. On aimerait tous être acteurs de ça. Après, on est que des petits Brestois, irréductibles Bretons, donc on ne peut pas non plus changer le monde.
Psycholinguiste en post-doctorat, elle aussi, Doc I. Kim Dufort, ajoute, en gardant le sourire, que dans certains domaines, nos universités sont aussi à la peine.
En France, des gens qui travaillent sur la linguistique computationnelle, ce sont plutôt des informaticiens plutôt que des linguistes. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait plus de collaboration, etc. Même pour la formation, peut-être qu'il faudra revoir un peu ce qu'il faut enseigner aux futurs linguistes computationnels. Il y a tellement de choses différentes à faire, il est très difficile de rattraper en fait tout le retard qu'on a accumulé par rapport aux autres pays, par exemple anglophones. Leur formation est beaucoup plus compacte, il y a beaucoup plus de cours et beaucoup plus de possibilités à apprendre des choses appliquées. Alors qu'en France, il y a beaucoup d'universités qui n'ont pas de moyens financiers pour acquérir, par exemple, des matériels qu'il faut pour faire ceci ou cela. Typiquement aux États-Unis, j'ai eu une petite formation dans une université aux États-Unis et là, vraiment, j'ai été surprise de voir autant de matériel et des disponibilités des enseignants parce qu'en fait, ils ne sont pas tout le temps en train de faire des paperasses, etc. Ils ont beaucoup plus de personnel qui pourrait gérer ce genre de paperasses à la place de l'enseignant.
Excusez-moi, ça y est, c'est plein.
Là, c'est plein. Ouais. On va devoir fermer les portes pour des raisons de sécurité. Hein. Et c'est toujours des meet-up qui sont tout le temps pleins, vu que les intervenants qui sont disponibles à chaque fois sont des intervenants de niveau international.
Pour se former ou découvrir les avancées de l'intelligence artificielle, beaucoup s'en remettent à des rencontres bon enfant, avec ce soir-là, par exemple, un direct depuis Bombay, organisé par le Meetup Paris Machine Learning, 3600 membres, soit le plus grand groupe en Europe.
Comme on peut le voir, c'est un rassemblement et ce que ça représente, c'est une effervescence au niveau justement de tout ce qui est technique. Et qui ça apporte assez beaucoup de connaissances en fait, puisqu'on voit des présentations assez variées. Et ça permet de se maintenir au courant en fait de ce qui se passe. Et ce qui est assez bien avec ce genre de meet-up, c'est que toute personne de milieux différents peut y assister, contrairement à ce qu'on a des conférences scientifiques où c'est vraiment que les docteurs et les chercheurs qui peuvent y assister.
Ces rencontres où pizza à la main, des entrepreneurs en herbe présentent leurs idées et recrutent. Et où le fameux écosystème dont on parle tant s'incarne, d'une plateforme de recommandation de manga à un robot compagnon.
Donc nous sommes au milieu du sentier, a priori un quartier réservé plutôt aux textiles, et on arrive chez Jam, au premier étage d'un immeuble ancien parisien. Entre et adresse-toi à la première personne que tu croises. C'est ce qui est écrit, il y a apparemment trois entreprises ici. Bonjour.
Marjolaine, enchantée.
Tout juste sortie de Sciences Po et d'HEC, Marjolaine Grondin a, elle, voulu faciliter la vie des étudiants grâce à une technologie d'intelligence artificielle. Leur ami, dit-elle, gratuit et assisté par des humains, trouve des bons plans boulot, sorties ou logements. 60 000 étudiants ont été séduits à raison d'une demande toutes les 8 secondes.
Donc là, je vais aller sur le back-office.
Donc l'administration.
L'administration, et là on voit vraiment, on va voir la page des demandes en attente. Donc si tout se passe bien, on n'a rien au-dessus de 10 minutes. Donc on va regarder ensemble, là j'ouvre la page, le suspense est à son comble. C'est parti, on va voir les requêtes. Et donc là on est à 1 minute, 5 minutes, 6 minutes, ah, et on en a une à 16 minutes qui est un peu difficile. Et donc ce qu'on va faire en fait, c'est que quand il y a une requête qui va arriver, moi je vais pouvoir m'y affecter. Là, on voit qu'on a ce qu'on appelle les backers pour I've got your back, donc des humains derrière la machine qui supervise, qui sont en train de répondre à des requêtes.
Des requêtes d'étudiants
qui nous disent par exemple « Salut Jam, tu connaîtrais un bar sympa près de Cergy Préfecture, merci. » Donc là, moi, je vais catégoriser et dire qu'il s'agit d'un bar. Et on voit que le superviseur, il est vraiment aidé, donc on a des sites super intéressants pour aller chercher des bars. Moi, je vais affiner ici. Il me propose de poser la question du type de bar, de l'ambiance qu'on recherche, et je vais pouvoir aller dans le contenu. Et là, dans le contenu, j'ai un agrégateur qui va m'aider, qui va me trouver des bars intéressants. J'aurai plus qu'à cliquer dessus, dire « Ah, effectivement, celui-là, il est sympa, celui-ci aussi ». Là, vous voyez que la machine, elle a émis un message suite à mes choix.
Elle a rédigé automatiquement, donc.
Automatiquement, avec un petit à la fin « Qu'en penses-tu » avec le smiley. Et hop, j'ai plus qu'à l'envoyer. Et là, on voit qu'ensemble, en 10 secondes, j'ai réussi à trouver des bars intéressants dans la localisation, l'envoyer à quelqu'un. Et même un humain, tout seul pour sa question, et non, même s'il n'allait pas en traiter des centaines, il mettrait beaucoup plus de temps à trouver un bar sympa près de Cergy. J'aurais pris mon téléphone, je serais allé dans Google, j'aurais peut-être regardé sur une application, etc. Là, je demande à Jam, et là, la personne, elle a envoyé sa question il y a moins d'une minute, et elle a déjà 2 bars super sympas. C'est complètement gratuit pour l'étudiant. Et derrière, c'est nos partenaires avec qui on fait des bons plans, qui payent pour être proposés aux étudiants. Et tout notre travail, c'est dire on est ton ami. On est vraiment pas ton meilleur ami, parce que ce serait un peu triste qu'on soit son meilleur ami, mais ton pote avec qui tu aurais toujours rêvé de discuter en amphi et qui a toujours le bon plan, et qui est là pour toi et qui est toujours dispo, quoi.
Jusqu'où techniquement vous voyez cette amitié, puisque vous parlez d'amis? Ça veut dire par exemple ne pas revendre ces données, ne jamais les communiquer à des publicitaires, à qui que ce soit? Ça, c'est tout à fait clair, votre engagement de ce point de vue?
C'est tout à fait clair. L'étudiant, on a son prénom, on a son numéro. Après, on a des informations sur lui qui nous communiquent. Mais par exemple, il n'y a pas de Facebook Connect, donc on ne connecte pas son Facebook, on ne connecte pas son LinkedIn, son Twitter, etc. On prend que les informations qu'il nous donne. Et on pourrait aller plus vite en disant « appuie ici et ça connecte ton Facebook et j'aspire tout ». On n'a pas envie.
Cette start-up a déjà levé plus d'1 million d'euros et a pu aller à Boston recevoir un prix du MIT grâce à la French Tech. La French Tech, un label brandi par l'État pour vanter nos jeunes pousses dans l'intelligence artificielle, les objets connectés, la réalité virtuelle ou autre. Son coq rouge, très flashy, est parti conquérir le monde depuis Bercy, où différents ministères et institutions commencent à faire le bilan.
C'est très important qu'on puisse expliquer extrêmement concrètement l'ensemble des actions qu'on a mises en place. Souvent, c'est assez peu connu, hein, tout ce volet initiative French Tech sur le fait de fédérer les écosystèmes, tout le travail aussi de rassemblement autour de la marque, tout ce travail autour de l'accélération avec BPI France, le fonds French Tech Accélération, tout le travail sur l'international. Il faut qu'on rentre vraiment dans le détail à chaque fois et qu'on donne à voir l'ensemble de ces actions au bénéfice de la croissance des startups.
Aujourd'hui, les jeunes startupeurs ont compris que finalement le gouvernement les soutenait, peu importe finalement par quel instrument, et en effet, il y en a beaucoup, mais c'est pas ça qui compte. Ils utilisent des bouts de chacun, ça leur ouvre des portes en France, notamment en termes de financement, mais aussi à l'international, c'est important. Ça a mis vraiment notre pays sur la map monde, dans les radars des grands décideurs internationaux. Et ça, c'était pas le cas encore il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, on parle de nous dans tous les pays importants du monde. On a de plus en plus d'investisseurs étrangers qui veulent venir venir en France pour découvrir ce qui s'y passe. Et évidemment, ça profite à tous nos entrepreneurs. C'est pas forcément toujours des choses qui sont aujourd'hui quantifiables, mais on le voit, le mouvement de fond, il est bon. Il y a plus de start-up créées, il y a plus de success stories. Les levées de fonds augmentent, continuent à augmenter en France, alors même qu'elles ralentissent de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est vrai que derrière tout ça, maintenant, c'est important de tirer un bilan en mettant en avant surtout les success stories, en faisant parler les entrepreneurs de ce que ça a pu chacun leur apporter à leur niveau.
Alors, donc on a un petit hôtel particulier qui a pas mal d'histoire d'ailleurs en fait, qui a été l'hôtel particulier de la comtesse du Barry. Donc très ancien, mais quand même pas trop grand non plus. C'est-à-dire que c'est une taille parfaite pour une quarantaine de personnes.
Symbole de cette dynamique, Snips, autre start-up qui a réussi à convaincre des fonds américains avec une promesse, diminuer notre temps d'accès à un service ou une information sur notre mobile en toute sécurité. Aussi décontracté que déterminé, Rand Indy, le cofondateur avec deux autres chercheurs, présente l'application gratuite lancée il y a quelques jours. Et ce jeune franco-libanais, lui aussi distingué par le MIT, se confie devant un mur végétal, revendiquant son patriotisme et ses convictions face notamment aux géants américains.
On est en train de créer finalement la mémoire de l'intelligence artificielle. Donc ce que fait l'utilisateur, c'est qu'il ouvre Snips, il ouvre en fait ce qu'on appelle le Brain Center, et dans le Brain Center, il peut connecter toutes ses sources de données, son calendrier, ses emails, sa localisation, sa liste de contacts. Et Snips, en fait, va automatiquement agréger ces données-là et les organiser en créant des liens entre ces données, un petit peu comme ça se passerait dans le cerveau. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit « rejoins-moi à la maison tout à l'heure », en fait, dans mon cerveau, le point d'entrée, c'était cette personne-là, et de proche en proche, j'ai navigué pour retrouver l'adresse de chez lui. C'est ça qu'on a voulu répliquer, en fait, dans notre premier produit. Donc, quand ensuite on a fait ça, il y a une barre de recherche dans laquelle on peut taper n'importe quoi dont on se rappelle. Par exemple, j'étais à New York la semaine dernière, je me rappelais juste que j'avais quelque chose à Brooklyn. Je tape Brooklyn et automatiquement, ça me dit « Tiens, j'ai trouvé quelque chose dans tes emails qui se passe à Brooklyn, qui s'avère en fait être un événement. Voici l'adresse. Si je clique sur l'adresse, maintenant, ça me montre des informations sur où est l'endroit, mais aussi des applications que je peux utiliser. Et du coup, ça me permet de lancer une application avec l'information déjà pré-remplie, donc avec l'adresse déjà pré-remplie. Donc, on a ouvert un bureau à New York et notre objectif, c'est évidemment de se développer aux États-Unis. Il faut être inconscient pour ne pas se développer globalement en 2016. Par contre, on tient absolument à rester une entreprise française. Parce que c'est très irrationnel. Je peux donner beaucoup d'arguments en disant « mais c'est bien, l'éducation est super, ça coûte moins cher d'employer des top talents en France, il reste plus longtemps parce qu'il y a moins de compétition et ainsi de suite », ce qui est vrai. L'État nous aide beaucoup, ce qui est vrai. Mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus patriotique d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en ayant grandi en France, en ayant en fait un petit peu finalement profité de l'éducation ici, profité de tout le système, je me sentirais mal, je sais que c'est le cas de beaucoup de gens dans l'équipe, on se sentirait mal d'avoir pris tout ça pour aller créer de la valeur ailleurs.
Cette volonté, c'est pas être condamné à rester le petit pousset français ?
Non, pas particulièrement, parce qu'avec les moyens, on peut se développer internationalement. Encore une fois, l'objectif n'est pas de ne pas aller aux États-Unis. On va conquérir l'Amérique, c'est l'objectif. Sauf qu'on va le faire en tant que Français.
Et ces géants, alors Google, etc., ces géants qui investissent dans l'intelligence artificielle, vous arrivez à lutter dans la compétition ?
Alors oui, pour deux raisons. La première déjà, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas juste de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de répliquer quelque chose qui existe déjà en essayant de le faire mieux. On est en train véritablement de faire de la science. Et la science a quelque chose de magnifique, qu'elle est absolument imprévisible. On peut dépenser $1 milliard sur un projet de recherche et quand même ne pas avoir de résultat. Il y a quelque chose en fait dans la créativité humaine qu'on ne peut pas contrôler. Et donc à partir de ce moment-là, tout devient une question d'avoir pris les bonnes décisions, d'avoir trouvé les bonnes choses, d'avoir finalement eu la bonne convergence d'idées au bon moment pour permettre d'avancer. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir une équipe de recherche qui n'est pas finalement limitée par quelque chose business, mais qui a l'opportunité de réfléchir très large et donc de faire ses découvertes. La deuxième chose, c'est qu'on est la seule entreprise au monde aujourd'hui à faire de l'intelligence artificielle et à protéger les données des utilisateurs. C'est-à-dire que personne qui fait l'intelligence artificielle, personne qui crée un assistant intelligent n'est capable en fait de faire la promesse de la confidentialité. Et dans notre optique à nous, c'est quelque chose de tellement fondamental pour le futur d'être capable en fait de gérer ces données-là de façon sécurisée qu'une entreprise qui crée un assistant et qui ne le fait pas va nécessairement toujours être en deuxième plan par rapport à une entreprise qui fait ça. Et donc oui, c'est un effort à court terme qui nous ralentit énormément, qui est extrêmement difficile, Mais sur le long terme, je pense que ça va vraiment faire la différence.
Intelligence artificielle made in France avec une musique pour finir composée par un programme informatique, ça ressemble à du Vivaldi, ça n'en est pas Eric Chavreau.
Et non, ce programme s'appelle EMI, il a été mis au point à l'université de Californie par David Kopp, un professeur de musique et d'informatique. Et comme vous l'avez reconnu, EMI a analysé quantité de musique de Vivaldi pour s'en inspirer et composer à la façon d'eux, mais à sa façon.
Grégory Bonnet, vous êtes donc chercheur à Caen, spécialiste de l'image, on va dire comme ça, en informatique. On va revenir très rapidement là-dessus. Aujourd'hui, dans nos vies, l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? Ça se manifeste comment?
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se manifeste de manière plutôt diffuse, en fait, comme ça a été souligné dans le reportage, à travers essentiellement Internet, les moteurs de recherche, par exemple, les systèmes de recommandation qui vous proposent les bons produits en fonction de votre profil, ce sont des techniques d'intelligence artificielle. Alors, ça se manifeste aussi à travers simplement la construction de logiciels. Par exemple, beaucoup de progrès dans la résolution d'un problème qui s'appelle SAT, un problème de satisfaction de formules logiques, a permis de révolutionner la conception et le test de circuits électroniques, et donc de grandement accélérer la construction de machines qu'on peut utiliser tous les jours, que sont des ordinateurs, des régulateurs automatisés pour des voitures ou des choses de ce type-là. Alors, voilà où se trouve l'intelligence artificielle pratique aujourd'hui.
Quelle société française, Eric Ezrati, ça veut dire Olivier. Olivier, voilà, mais écoutez, j'ai un petit souci avec l'intelligence, bon voilà. Dans quelle société? Quelle société française?
Il y en a beaucoup, il y en a énormément en fait. Il y en a plusieurs dizaines qui sont lancées dans le secteur. Alors, il y a plusieurs types de sociétés. Il y a des vendeurs de palettes pioches, comme on pourrait les appeler. C'est-à-dire, ce sont des sociétés qui fournissent des outils logiciels, souvent, qui intègrent des technologies d'IA et qui vont être intégrées par d'autres sociétés. Des grandes entreprises, des sociétés dans le marketing, des sociétés dans le domaine de la santé. Typiquement, il y a des sociétés spécialisées dans les moteurs de recherche, comme Antidote, qui proposent des technologies qui vont être utilisées dans les systèmes d'information des entreprises. C'est le premier type de boîte. Deuxième type de société, ça va être des sociétés plutôt orientées grand public, qui vont essayer de fournir des services faciles d'abord. Il y a une société un peu comme Jam qu'on a vu tout à l'heure, qui s'appelle Julie Desk, qui permet à des PME, des TPE, d'avoir une assistante virtuelle qui répond à vos mails automatiquement pour prendre vos rendez-vous. C'est un exemple. Et puis, il y a un troisième type de société qui se développe beaucoup sur des marchés de niche, qui travaille sur des besoins extrêmement spécifiques. Par exemple, des sociétés qui analysent les résultats de vos électrocardiogrammes ou les résultats de vos fonds de l'œil pour la diabétologie ou l'ophtalmologie, ou des radios dans le domaine de la santé, et qui vont permettre d'identifier rapidement des troubles dans les images, des patterns dans les images. Et donc, on a plein de petits marchés comme ça où des boîtes françaises se développent aujourd'hui.
Eric Chavreau. De grandes boîtes aussi, parce que on parle beaucoup des startups et on parle moins des grandes entreprises. On parlait là de feu France Télécom. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, Orange, moi on m'a parlé de Total, mais est-ce que les grands groupes se mettent à jour dans le domaine?
Ça dépend des métiers. Il y a effectivement dans plein d'industries, dans l'énergie, dans les transports, notamment le transport aérien, on a besoin de faire appel à l'IA. Dans toutes les industries qui contrôlent des processus complexes, où il y a beaucoup de machines-outils, beaucoup dans ce qu'on appelle les utilities, dans tout ce qui est transport de l'énergie, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Par exemple, dans le futur de l'énergie, où il y aura beaucoup d'énergie renouvelable, on aura besoin, de manière très optimale, de savoir gérer l'énergie qui vient des centrales d'énergie fossiles avec les sources d'énergie renouvelables, d'optimiser la circulation d'électricité dans le territoire. Et ça, c'est très compliqué. Ça nécessite de faire appel à de l'IA. Ce sont des exemples. On a des sociétés très technologiques comme Airbus, comme Thales, comme Safran, qui font appel mécaniquement à des technologies d'IA dans la sécurité, dans tout ce qui est aérien, tout ce qui est aérospatial. Il y a énormément d'investissements dans ce domaine-là, oui.
On peut parler de la voiture autonome aussi.
Alors dans la voiture autonome aussi, on a quelques acteurs industriels français qui se distinguent, notamment d'ailleurs en faisant appel à des projets de recherche financés par la puissance publique. Mais on a des boîtes comme Valeo. Il faut savoir que Valeo, par exemple, a développé des systèmes qui permettent de garer les voitures toutes seules ou de rester dans sa file d'autoroute. Et ces solutions sont utilisées d'ailleurs par des sociétés allemandes. Des boîtes comme Audi et BMW utilisent les technologies de Valeo. Mais quand on achète la VBM ou l'Audi, on ne sait pas que c'est Valeo qui est derrière.
Voilà. Il y a eu un premier test en France, un Paris-Bordeaux, c'était à l'automne dernier de PSA. Mais on peut quand même se poser la question de dans combien de temps on passera de ce test-là à une réalité sur les routes de France. Parce qu'il y a aussi l'aspect juridique, d'assurance. Et en France, ouais, on peut se dire...
La loi, elle suivra. Il ne faut pas s'inquiéter de la loi sur ce genre de technologie. Aux États-Unis, il y a déjà deux ou trois États, je crois que c'est la Californie et le Nevada, qui autorisent les voitures automatiques, notamment celles de Google ou de Audi, à titre expérimental. Alors évidemment, sur une route du désert du Nevada, ce n'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop d'embouteillage. Mais elles sont utilisées dans des routes de banlieue de Californie, à San Francisco, à Los Angeles. Ça commence à être courant. Effectivement, traverser la place de l'Étoile ou être à Bombay ou à Naples avec une voiture automatique, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Moi, je pense qu'on va y arriver, mais de manière progressive, c'est-à-dire que les logiciels, les technologies matérielles, les détecteurs, les capteurs qui permettent de savoir ce qu'il y a autour de la voiture, qui vont comprendre aussi ce que font les piétons ou les cyclistes autour de la voiture, vont s'améliorer graduellement, d'étape en étape, et d'année en année, on fera des progrès. Mais ça ne va pas être brutal, il n'y aura pas une année 1, on dira « tiens, maintenant, on accepte de le faire ». On acceptera de le faire progressivement. Vous pouvez vous acheter une Tesla, bon, à $80,000 aujourd'hui, qui reste dans votre file d'autoroute et qui suit la voiture qui est devant.
Yann Lequin parle de 5 à 10 ans.
Oui, alors les prévisions sur la voiture entièrement automatique dans un environnement urbain occidental vont de 5 à 15 ans selon les spécialistes.
Là, on parle là des applications dans le civil. Quelles sont les déclinaisons aussi militaires qu'on connaît actuellement avec, toujours pour le grand public, cette image aussi de drones autonomes, de robots tueurs ? Grégory Bonnet.
Alors, de manière générale, les applications, effectivement, sont les drones automatisés pour... soit du renseignement, soit effectivement de l'action de l'opération sur le terrain. Il y a tout ce qui concerne aussi la surveillance automatique, le suivi de cible, par exemple, ou simplement la surveillance dans les grandes stations de métro, ce genre de choses. Mais il y a aussi, d'un point de vue militaire, les opérations qui consistent à faire, par exemple, du sauvetage, mettre de la robotique autonome pour pouvoir aller explorer des endroits qui ont été cibles de catastrophes.
Vous voyez des robots, voilà. Là, où les humains, on parle aussi dans les catastrophes nucléaires, enfin les centrales.
La France, par exemple, est équipée d'une flottille de robots. C'est une des rares nations à posséder des robots assez opérationnels pour pouvoir intervenir sur des sites hautement contaminés, par exemple.
À Fukushima, hein.
Voilà,
ce sont des robots français.
Et on les a prêtés, partie, par exemple.
Vous participez à un projet Ethica, Grégory Bonnet, sur les agents autonomes et l'éthique, dans lequel donc des chercheurs comme vous évoquent avec des philosophes les questions éthiques. Comment est-ce que, enfin, vous en êtes où de vos réflexions? Est-ce que aujourd'hui, je crois que vous avez eu des contacts d'ailleurs avec des militaires. Comment est-ce que tout ça est perçu au milieu de ces développements qui vont à la vitesse de l'éclair?
Bah, disons que nous sommes encore au début de la réflexion. C'est quelque chose, je pense, vraiment à penser sur le long terme. La vraie question, en fait, derrière, est de penser comment est-ce qu'une machine pourrait plutôt justifier ses décisions. En fait, c'est toujours derrière un concepteur qui va donner des ordres, qui va décrire comment est-ce que la machine doit prendre une décision, comment est-ce qu'elle doit agréger les données. Il y a une décision humaine, en fait, qui est derrière et qui est souvent complètement cachée, en fait, pour un utilisateur ou un opérateur. Et donc, il faut développer des modèles pour pouvoir représenter les raisons de pourquoi est-ce qu'une machine va prendre des décisions et qu'elles soient en possibilité de les redonner de manière claire à quelqu'un, pour que l'on puisse juger ou non de la qualité éthique, si l'on peut dire, ou morale, d'une prise de décision automatisée. Donc là c'est vraiment le cœur du projet, et pas tant de donner des recommandations. Vous voyez là un peu la nuance, nous ne sommes pas en tant que chercheurs à devoir dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, mais plutôt fournir les outils qui permettraient à des gens de spécifier, que ce soit des juristes, par exemple, ou des comités d'éthique, de spécifier clairement qu'est-ce que doit faire la machine.
Mais les militaires donc vous écoutent, parce que Jean-Gabriel Ganassia, qui travaille aussi dans ce ce projet dit que oui, les militaires français sont plutôt méfiants, ils écoutent, mais ils ne seraient pas prêts, par exemple, à signer un moratoire parce qu'ils pourraient, au plan international, parce qu'ils pourraient se retrouver en situation de faiblesse. Et un spécialiste défense que j'ai interrogé, qui a écouté sur notre site, me dit, lui, qu'il y a clairement actuellement une fuite en avant du côté de la Russie, des États-Unis notamment, par rapport à la Russie qui vise à 2020-2025 30% de son armée robotisée, et les États-Unis là par exemple qui est en phase de test terminal sur un navire, le Sea Hunter, qu'on peut voir en photo sur notre site.
Mm-hmm. C'est vrai, tout à fait, mais c'est vrai qu'en France par exemple les militaires de manière générale sont assez prudents et l'idée de déléguer complètement toute prise de décision à une machine est pour l'instant, enfin à ma connaissance, c'est hors de question.
Aux États-Unis, il faut savoir que une très grosse partie de la recherche en intelligence artificielle est financée par la DARPA. La DARPA, c'est l'équivalent de la DGA française. Mm-hmm. C'est des budgets, je crois, de l'ordre de 3 à 5 milliards de dollars par an. C'est, je pense, 20 fois plus que ce que la DGA doit avoir en France. Et ce sont des moyens énormes. Il y a un exemple qui est très connu, qu'on a beaucoup vu dans les médias, qui est le fameux chien de Boston Dynamics, qui est une filiale de Google que Google essaie de revendre. C'est un projet DARPA à l'origine, ça. Et donc, c'est des projets qui sont inspirés par des militaires à base de problématiques militaires, qui peuvent avoir des applications civiles derrière, mais c'est souvent le militaire qui est à l'origine de ces idées-là. Et d'ailleurs, la recherche américaine a une caractéristique qu'on n'a pas trop souvent vue en France jusqu'à présent, c'est que ce sont des projets qui sont basés sur des appels d'offres avec des besoins précis. Ils disent « faites-moi un truc qui va protéger un soldat ou qui va permettre à un soldat d'être plus efficace sur un champ de bataille dans un territoire difficile comme en Irak ou en Afghanistan ». Et il y aura des appels d'offres, il y a des gens qui vont répondre, des labos ou des start-up ou des grosses boîtes établies comme Lockheed Martin ou d'autres équipementiers. Et celui qui va gagner, il va développer le produit et il va gagner une commande. En France, on a tendance à faire beaucoup de recherche fondamentale, mais pas assez de faire de la commande publique, parce qu'on achète peu finalement, on est trop petit. Et ça crée un déséquilibre très fort entre nos acteurs français et les acteurs américains de ce point de vue-là.
J'en reviens au reportage et à la recherche, Grégory Bonnet. On entendait Claude Béroux qui disait que la recherche fondamentale était vraiment en danger. Comment vous observez ça de quand? Est-ce que vous diriez que la précarité, enfin, est-ce que, y compris pour l'intelligence artificielle, où on a l'impression que là, d'un coup, il y a des investissements qui viennent de partout, y compris là, la recherche fondamentale, la recherche publique est en danger?
Alors, bon, je vais un petit peu nuancer. Il y a effectivement les deux éléments. Il ne faut jamais oublier cette question de la précarité qui est réelle, qui est présente depuis de très nombreuses années, qui touche un peu moins le domaine de l'informatique que les autres disciplines scientifiques. Nous sommes encore en informatique assez chanceux de ce côté-là, mais ce n'est pas...
C'est général.
Voilà, c'est de manière générale. Et puis d'un autre côté, il y a la productivité, en termes de résultats scientifiques qui sont reconnus internationalement dans des grandes conférences ou des revues à comité de lecture. Donc c'est deux choses un peu séparées qu'on peut discuter.
Et le mode de fonctionnement dont parlait Jean Ponce, pour le coup, c'est-à-dire aujourd'hui le fait qu'il y ait notamment ces grands géants américains qui sollicitent, qui ont des partenariats avec l'INRIA, CNRS et autres, et qui derrière publient. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est en open source. On retrouve d'ailleurs dans la meet-up là, qu'on entendait, on retrouve plein d'éléments publiés par Google. Là, il y a quelques jours, il y a Amazon qui a publié une grande partie de son logiciel qui permet les suggestions. Là, il y a un changement déterminant.
Oui, il y a quelques années, les grandes entreprises ne publiaient pas tant que ça, en fait, dans les grandes conférences ou les revues. Et maintenant, elles prennent de plus en plus une part active dans la production scientifique et partagent aussi leurs résultats.
Et les discussions se font sans souci, enfin ça. Parce que j'en pense, on a l'impression que c'est un peu idyllique, quoi. Disons, oui, il y a des dons, du mécénat, tout va bien. Bon, il dit pour l'instant, mais.
Encore une fois, tout va dépendre des types de contrats, de la manière dont ça va être passé à la moulinette juridique et comment les droits en fait de chaque partie vont.
En fait, comment vous expliquez ça, en fait, Olivier Zrati? Parce que ce qu'on dit aussi, c'est que si les grands groupes font ça, c'est pour pouvoir imposer leur format, leur standard. Un peu comme Google avec Android, finalement.
Ça peut servir, mais c'est lié à une tendance qui a démarré une dizaine d'années qu'on appelle l'innovation ouverte, c'est-à-dire qui consiste à dire qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise et de ses propres laboratoires de recherche pour trouver de bonnes idées. Mais l'erreur de jugement qu'on fait souvent sur l'appréciation de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a toujours tendance, notamment en France, à confondre la recherche et l'innovation. Ça n'a rien à voir. La recherche, c'est très amont. C'est identifier des processus dans des domaines en général assez pointus, des idées dans des domaines techniques pointus. L'innovation, c'est la mise en musique de plusieurs composantes qui viennent d'ailleurs d'endroits très disparates pour créer un produit, un service qui va se vendre et qui va avoir une valeur.
L'application.
C'est l'application. Et en fait, c'est pas parce qu'une entreprise va mutualiser sa recherche fondamentale avec l'extérieur, publier des papiers de recherche, que vous allez faire un produit pour autant. Et donc la capacité à faire un produit, c'est ça qui est fondamental pour transformer la recherche en avantage économique. Et d'ailleurs, c'est là où le bât blesse chez nous. Très souvent, on demande aux chercheurs de créer des boîtes, mais ils n'ont pas forcément la compétence pour transformer ce qu'ils font en recherche en produit. La compétence dont on a besoin, c'est un mélange de marketing et d'ingénierie et de compréhension des besoins du marché, des besoins du monde en général, pour créer des solutions. Et d'ailleurs, je pense que les solutions les plus marquantes de l'IA du futur, on ne dira pas que c'est de l'IA. On dira que c'est du marketing, on dira que c'est de la santé, de la génomique, on dira que c'est du transport automatique, on ne dira pas que c'est de l'IA. L'IA, c'est une composante logicielle de l'ensemble.
Mais on a l'impression qu'il y a une meilleure intégration entre les deux mondes, là. On l'entendait avec Randindi à la fin. Est-ce que c'est plus global, ça? Il y a aussi, dans tous les témoignages que j'ai pu recueillir, souvent des ponts comme ça, l'INRIA, on les pousse justement à encourager.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a une relation qui est pacifiée, on va dire, entre les laboratoires de recherche français et les grosses boîtes américaines. C'est clair que c'est un énorme changement par rapport à la situation d'il y a une quinzaine d'années, mais il ne faut pas se leurrer non plus sur la répartition de la valeur. On aura peut-être des fois des contrats avec des royalties qui vont nous alimenter les laboratoires de recherche, mais il faut savoir que ces sociétés-là font des milliards de dollars. Facebook, c'est 20 milliards de dollars, Microsoft est près de 90, Google, c'est 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Leur profitabilité est un multiple des budgets totaux de la recherche française. C'est énorme, énorme.
Parlons économie. Grégory Bonnet, la start-up qui a levé le plus de fonds récemment au monde est française, mais les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni sont
fondés par un Français.
Sont souvent loin devant. Qu'est-ce qui fera entrer la France dans la cour des grands? Est-ce que c'est possible que la France demain...
Alors, encore une fois, il faut bien distinguer ce que l'on va parler de recherche fondamentale ou théorique, et puis d'application et d'innovation. Donc, si on parle de recherche théorique, la France est déjà, a déjà de nombreuses universités, des laboratoires de recherche, des chercheurs tous de très grand niveau et un grand nombre reconnus internationalement. Sur la question de l'innovation, c'est peut-être autre chose. À mon avis, là, une de mes réponses, je pense, c'est de pouvoir augmenter la quantité de budgets qui sont alloués. La disparition, la diminution des budgets universitaires font que mécaniquement, les chercheurs qui veulent bien faire leur travail sont obligés d'aller chercher des subsides ailleurs, que ce soit à travers des contrats avec des entreprises, qu'elles soient françaises, américaines ou de d'autres pays, bien entendu.
Et pour finir, alors la French Tech, Olivier Drati, elle a quand même du bon ou
Ah bah bien sûr, c'est juste un logo. C'est une dynamique entrepreneuriale française qui se passe bien. Il y a des efforts de la puissance publique et des écosystèmes régionaux et de franciliens évidemment pour dynamiser la présence des boîtes françaises à l'étranger. Tout va dans le bon sens. En fait, les lois qu'il faut arriver à respecter, elles sont pas très compliquées. Il faut trouver un besoin qui vérifie ce qu'on appelle la loi de la brosse à dents, c'est-à-dire une loi qui consiste à créer un usage, un produit qui va être utilisé de manière récurrente, tous les jours. Deuxième point, c'est qu'il faut être capable de créer ce qu'on appelle des écosystèmes, c'est-à-dire pas avoir un produit qui est isolé comme ça dans son coin, mais qui est relié à plein d'autres acteurs sur le marché. Troisièmement, il faut faire l'international très rapidement, et comme vos interlocuteurs dans l'interview l'ont montré, il faut aller aux États-Unis le plus vite possible.
Merci à vous deux, donc Grégory Bonnet, chercheur au GREC, groupe de recherche en informatique, images automatiques et instrumentation à Caen. Olivier Esrati, merci également, consultant en innovation, auteur d'un guide donc sur les start-up et puis auteur de nombreux articles qu'on peut retrouver sur votre blog Opinion Libre au pluriel. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Intelligence artificielle Made in France, un reportage d'Éric Chavot réalisé par Adi Bourg à la technique Élise Le. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, la commenter sur franceculture.fr, notre site où figure déjà Éric Chavot de nombreux compléments.
Oui, des entretiens en longueur d'intervenants du magazine comme Jean-Gabriel Ganassia ou Jean Ponce, mais aussi d'autres spécialistes comme le chercheur de l'INRIA basé à Nancy, Nazim Fates, Thierry Berthier, blogueur et spécialiste défense, ou Paul Strackman, investisseur français basé à New York.